session de théologie à Rimont le 2 novembre 1991. 9e cours, 10h30, Père Samuel, foi et intelligence.
Une question sur l'informatique. Comment ne pas craindre, en faisant de l'informatique 8 heures par jour, et en plus de l'intelligence artificielle, une certaine déformation de l'intelligence au détriment de l'intelligence de l'être? Quels sont les moyens pratiques de lutter pour que l'intelligence puisse malgré cela coopérer à la foi? C'est ce dont je vous parlais hier, hein, quand je vous ai parlé de, que ce soit l'informatique ou l'information. C'est pas qu'en soi ça soit mauvais, c'est évident que ni l'informatique ni l'information comme telles ne sont mauvaises. L'information, ça existe depuis l'humanité, depuis qu'il existe des concierges, il existe l'information. Le tout, c'est d'être lucide sur le fait qu'encore une fois, ce sont des connaissances qui impliquent des médiations. Et que dès qu'il y a une médiation, il y a un risque. Les médiations ont un avantage énorme, c'est qu'elles permettent d'adapter dans l'ordre de la communication. Ça, c'est capital même pour toute la théologie, hein, parce qu'on va voir que Dieu se sert de médiation. Il aime se servir de la médiation. Mais dès qu'il y a une le but d'une médiation, positivement, c'est d'adapter à celui qui reçoit, au récepteur, le don qui est fait, alors, qui est de l'ordre de l'intelligence, qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de la connaissance. Mais l'avantage de la médiation, c'est qu'elle adapte. Elle vous transmet les choses. L'exemple typique, c'est l'éducation. L'éducateur, que ce soit des parents ou un professeur, c'est un adaptateur. Si vous laissez les enfants tout seuls dans la nature se débrouiller, il y a peu de chances qu'ils arrivent un jour à comprendre beaucoup de choses. Donc il y a besoin d'une adaptation. Et la médiation, elle sert à adapter. Elle sert à la fois, elle a un double mouvement. Elle sert à adapter le don à celui qui reçoit, et elle sert à attirer, à élever celui qui reçoit vers ce qui lui est donné. Il y a un double mouvement dans la médiation. Parce que ça adapte dans les deux sens. La médiation, elle adapte le don à celui qui reçoit. La vulgarisation scientifique, par exemple. Le français moyen, ou l'homme moyen, est incapable de comprendre quoi que ce soit à l'astrophysique scientifique. Pas plus qu'à la biochimie, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vulgarise, c'est-à-dire qu'on adapte l'information et la compréhension de la science à celui qui est capable de comprendre. Alors, on lui met des grosses images, par exemple, on lui met des belles photos de galaxies, et on lui fait tout un discours sur l'astrophysique. Comme si les scientifiques réfléchissaient sur les photos de galaxies. Les astrophysiciens ne regardent jamais les photos de galaxies, ils travaillent sur des chiffres traités par ordinateur. Que les photos des galaxies soient belles, c'est un tout autre problème, ça n'a rien à voir avec le travail de l'astrophysique. Mais dans les revues d'astrophysique vulgarisées, vous avez des belles photos partout. On fait des discours, et comme les photos sont belles, vous identifiez ce qu'on vous dit à la beauté des photos. S'il n'y avait qu'un texte, pur et dur, avec que des chiffres, vous ne vous diriez rien. Si on ne vous racontait pas des petites histoires et des petits exemples, vous voyez, les exemples, par exemple. Les exemples, ça permet d'adapter quelque chose de difficile à celui qui a du mal à comprendre. C'est ce que fait, par exemple, Jésus avec les paraboles. Comme la théologie de la grâce et du royaume de Dieu, c'est difficile à avaler, il raconte des histoires de graines qu'on sème dans les champs, de graines de moutarde, de levain dans la farine. Comme c'est difficile de faire un cours de théologie aux disciples sur le mystère de la charité fraternelle et l'obéissance au Christ tête, il vous parle des moutons et du berger. C'est plus facile. Donc dans ce sens-là, il y a une adaptation. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ça marche. Une véritable médiation, c'est fait aussi pour dans l'autre sens. Précisément dans les paraboles. C'est que les paraboles, si vous voulez, c'est très joli l'image. Et puis quand on regarde bien ce que raconte Jésus, en fait, il y a un endroit où ça oblige à aller plus loin que l'image. Et une véritable médiation, elle oblige aussi celui qui reçoit à élever son intelligence ou son amour à la hauteur de ce qui lui est donné. C'est ça un éducateur. Le but d'un éducateur, que ce soit un père de famille ou un professeur, c'est pas d'adapter de transformer l'image du réel pour que l'enfant puisse l'accepter. C'est aussi de préparer l'enfant à affronter le réel. Vous voyez, si vous vous contentez de présenter à l'enfant ou au jeune un monde tel qu'il est capable de l'accepter, sans en même temps chercher à le préparer à accepter la réalité comme elle est, vous n'êtes pas un véritable médiateur. Vous ne l'êtes que dans un sens unique. Et ça, ça joue par exemple pour l'information. C'est vrai que l'information doit rendre compréhensible par quelqu'un qui n'a pas assisté à un événement. Mais normalement, la médiation, elle est faite, si vous voulez, pour s'effacer. Ce mouvement-là, c'est un mouvement d'effacement. C'est-à-dire que la médiation, elle doit disparaître pour que celui qui reçoit soit directement à la hauteur du don. Donc quand on vous fait un discours, si vous voulez, à la fin des informations, on devrait s'arrêter et vous dire maintenant, on coupe l'émission et pendant 20 minutes, vous allez réfléchir sur ce qu'on vous a dit. Pendant 20 minutes, il n'y aura pas d'émission, ni sur cette chaîne, ni sur les autres. Parce qu'il faut que vous soyez capable d'exercer votre propre intelligence pour essayer d'être capable de comprendre de quoi exactement on vous parle, au-delà de la manière dont on vous en parle. Et quel rapport ça a avec vous ? Pour beaucoup, ça n'a aucun rapport avec vous. Donc on vous laisse 20 minutes pour que vous aperceviez que pendant une demi-heure, on vous a dit pendant 5 minutes des choses intéressantes et que tout le reste, c'était du remplissage. Vous voyez, ça serait le travail du médiateur juste qui va jusqu'au bout de lui-même. Vous voyez, c'est le professeur ou le père ou la mère qui laisse l'enfant exercer son jugement, qui ne se contente pas de lui servir toujours ce qu'il est capable de recevoir. Que dit Saint Paul ? Saint Paul dit, prend cette métaphore, il dit au début on commence par vous donner du lait, puis progressivement on vous donne des nourritures de plus en plus solides. Puis vous finissez par être capable de manger du beefsteak. Dur. Il digérait vraiment. Mais au début, on s'adapte. Mais le but de l'adaptation, encore une fois, la finalité de la médiation, c'est de permettre à la personne humaine, parce que c'est la personne, hein, de grandir dans l'ordre de l'intelligence et dans l'ordre de l'amour. Tout le mystère de l'incarnation, c'est ça. Dans le Christ est humain, est un homme. Parce qu'il est un homme, il est adapté à nous. Mais la finalité, ce n'est pas simplement de s'adapter à nous. C'est de nous hisser jusqu'à lui. Ce qu'ont très bien montré les pères de l'Église. C'est pour ça que les pères de l'Église parlaient d'un échange admirable. En montrant comment le Christ descendait jusqu'à nous pour nous hisser jusqu'à lui. Et alors, c'est comme toujours, vous pouvez... Si vous voyez que l'un ou que l'autre, vous ne respectez pas le mystère de l'Évangile. Ou vous ne respectez pas tout court ce que c'est qu'une véritable médiation humaine. Parce que vous pouvez aussi, il y a certaines spiritualités qui suppriment complètement l'adaptation. Pendant l'homélie, on va vous faire un cours sur la somme théologique de saint Thomas. Vous ne comprenez rien, c'est pas grave, c'est la vérité. Ce que je vous ai dit, c'est vrai. Ça n'a aucune importance que vous le compreniez. Parce que si je l'adapte, c'est plus la vérité. Vous voyez, à ce moment-là, on fait un travail d'élite, c'est-à-dire que ceux qui arrivent jusque-là, ils y arrivent, puis ceux qui n'arrivent pas, tant pis pour eux. Alors, il y a deux catégories, ceux qui sont au niveau du don et ceux qui sont au niveau... pas crête. Mais c'est important de voir, vous voyez, dans la manière dont aujourd'hui, dans l'Église, on reçoit les choses, on reconnaîtrait des choses, là. Sur ceux qui sont uniquement pour adapter l'Évangile au pas crête, et pour ceux qui sont, pour qu'il y ait d'un côté ceux qui n'y comprennent rien, et puis ceux qui comprennent et qui... sont immédiatement au niveau de la science parfaite. Donc pour l'information, c'est pour ça que l'information elle n'est pas mauvaise comme telle. Le tout c'est qu'il faut être lucide sur l'exigence d'une information, d'une connaissance qui implique une médiation. L'exigence de la médiation, quand cette médiation elle touche la personne humaine. Alors c'est la même chose pour l'informatique. L'informatique ça permet de traiter des problèmes... La médiation informatique, elle permet de traiter les problèmes avec une rapidité, parce que c'est surtout ça, la rapidité et la précision. Avec une rapidité et une précision beaucoup plus grande. Mais l'informatique n'est pas faite pour se substituer à la confrontation de la personne au problème. On ne fera jamais des diagnostics médicaux par ordinateur, c'est pas vrai. On peut s'aider de l'ordinateur pour traiter des informations, mais l'ordinateur, on ne peut pas lui demander ce dont il est incapable. C'est-à-dire que la médiation, quand elle est humaine, elle est qualitative, mais plus elle est matérielle, plus elle est de l'ordre de l'instrument matériel, et plus elle est pauvre. Vous ne ferez jamais avec un magnétophone ce que vous faites par la parole. Parce que un magnétophone, c'est une machine. C'est-à-dire que c'est quelque chose de purement matériel, qui n'est pas vivant. Donc qui pourra au mieux singer la vie, mais qui ne pourra jamais la créer. Donc c'est important de voir que c'est la même chose d'informatique. Le tout, c'est que je sois lucide sur le fait que cette connaissance ou cette utilisation des informations par la médiation de la machine, elle n'est pas ma vie. Et elle implique un appauvrissement qui est d'autant plus grand que c'est un instrument purement matériel. Si vous voulez, se servir d'un ordinateur, c'est comme de se servir d'un aspirateur. C'est plus puissant comme instrument. Et au niveau de la réalité, du lien entre l'homme et le réel, il n'y a pas plus de lien, il y en a même moins. Parce que la manière dont l'informatique se substitue à la réalité est beaucoup plus forte que la manière dont parce que l'aspirateur, c'est qu'il faut quand même aspirer les poussières. Vous avez quand même un certain lien avec les poussières. Alors que dans l'informatique, vous n'avez des liens qu'avec déjà une réalité qui est transformée sous forme de signes. Vous n'êtes que dans les signes, si vous voulez. C'est comme une espèce de... L'informatique, c'est comme une matérialisation de la logique de l'intelligence. Si vous voulez, l'informatique, c'est de la méthode en machine. C'est ça, l'informatique. C'est qu'au lieu que la méthode, elle soit là, on vous la met dans la machine. Et donc ça prolonge votre réflexion méthodologique. Mais ça n'accroît en rien l'intelligence. Pas plus que la méthode. La méthode, ça n'a jamais rendu intelligent. Ça rend logique, mais ça ne rend pas intelligent. C'est-à-dire que ça ne me met pas... Ça me permet d'être plus rapide et plus précis. Mais ce n'est pas ça qui met devant le réel. Je peux être un logicien parfait et être complètement bête dans mon rapport avec le réel. Les gens qui passent leur temps à faire des programmes informatiques, sauf s'ils ont à côté de ça une vie humaine extrêmement intense, sont des gens qui ne sont pas intelligents dans l'ordre humain. Encore une fois, sauf s'ils ont une vie extrêmement intense à côté. Mais sinon, parce que quand on est uniquement dans la méthodologie de l'intelligence, encore une fois, s'il y a un repliement, mais la méthode, c'est l'intelligence. Travaillant sur elle-même. Alors quand vous faites que des programmes informatiques, vous travaillez sur l'intelligence, travaillant sur elle-même à travers un intermédiaire qui est même pas la noblesse de l'intelligence. Vous travaillez que sur la logique, si vous voulez. L'informatique, c'est de la... Et en plus, quand on étudie près, c'est même une logique qui de seconde zone. C'est pas de la logique pure, c'est de la logique... Parce que il faut que la logique de l'informatique, c'est une logique qu'il faut précisément réussir à matérialiser. Et donc, dès qu'on matérialise quelque chose, on en perd. Mais c'est pas aussi souple que la logique pure de l'intelligence. Alors, c'est très pratique, on est tous d'accord. Ou si vous voulez, il y a la même différence entre... Enfin, il y a même plus de différence entre l'informatique, la réflexion sur certains problèmes humains avec l'aide de l'informatique, et le lien direct entre l'intelligence et la réalité qu'entre un artisan et une machine. C'est plus rapide et c'est plus précis, une machine. Mais un véritable charpentier, c'est que jamais aucune machine n'arrivera à faire les charpentes comme le fait un charpentier. Ça sera plus vite fait, plus économique, plus précis, mais on aura perdu tout ce qu'est l'art de la charpente. C'est-à-dire que ce sera plus humain. Mais ce sera économique. Alors c'est une question, encore une fois, toutes les médiations, quand elles sont des médiations qui sont dans l'ordre de la connaissance et qui comportent des risques, réclament la lucidité. C'est pour ça que tous les moyens de communication réclament une sagesse de communication. Plus le moyen est puissant, et plus l'homme doit être sage. C'est ce qu'on découvre du côté scientifique. Hein. On découvre que le fait de pouvoir jouer avec les atomes réclame plus de sagesse que de jouer aux billes. Et le fait de pouvoir manipuler la vie réclame plus de sagesse que de planter les choux. Même si planter les choux, ça réclame déjà de la sagesse. Eh bien, de la même manière, l'usage d'instruments de communication extrêmement perfectionnés et très puissants réclame une sagesse à la mesure de la puissance qui est mise en œuvre dans ces moyens. Et donc se servir des moyens de communication comme si c'était évident, c'est un manque d'intelligence. Et du côté de celui qui s'en sert, de celui qui les fait, et du côté de celui qui les reçoit. C'est pas simple du tout la télévision. C'est un appareil dangereux. Le tout, c'est de le savoir. Une voiture aussi, c'est dangereux. Mais une télévision, c'est plus dangereux qu'une voiture. C'est pas gênant. Les jeux, tous les instruments, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses dans la vie. Le tout, c'est d'être lucide sur le danger que ça représente. Et de voir que ça réclame une sagesse qui est à la mesure du danger que ça représente. Alors, ce qu'on va essayer de reprendre, donc ce qu'on a vu jusque-là, on a essayé de regarder ce que c'était que l'intelligence. En comprenant que, au début, je repère en gros où est l'intelligence. Mais pour découvrir de plus en plus profondément ce qu'elle est, il faut qu'elle s'exerce. Je ne comprends ce que c'est que l'amour qu'au fur et à mesure que j'aime. C'est pour ça qu'au début, je ne comprends pas grand-chose. De la même manière que je ne comprends pas ce qu'est un art tant que je ne l'ai pas pratiqué. Et donc, si au début, je suis capable de repérer où se situe l'intelligence, dans ce lien immédiat avec le réel à travers la sensation, il faut savoir que c'est le développement harmonieux de l'intelligence qui va me permettre de découvrir vraiment ce qu'elle est. C'est ça qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que on met pas en doute le fait qu'on a un estomac ou le fait qu'on ait des yeux, alors qu'on met facilement en doute le fait qu'on ait une intelligence. C'est vrai, c'est parce que c'est beaucoup moins visible. Et pourtant, l'intelligence est quelque chose de beaucoup plus vital, de beaucoup plus radical dans l'homme que son estomac ou que ses yeux. Et je dirais d'une certaine manière, le développement de l'intelligence comme celui de la capacité d'aimer réclame beaucoup plus d'attention que de bien manger. Oui, je ne veux pas dire qu'il faut faire de la... Si, il faut faire de la... Il faut développer de la nourriture biologique pour l'intelligence. Vous savez, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui autrefois était les aliments normaux, aujourd'hui, ça devient des aliments biologiques. C'est des carottes qui ont vraiment poussé dans de la terre, c'est des aliments biologiques. Des poulets qui ont un jour vu le soleil, c'est des aliments biologiques. Non mais c'est vrai, et des veaux qui ont vraiment couru dans un champ et mangé de l'herbe, c'est des aliments encore plus biologiques. Et c'est très étonnant de voir que ce qui est normalement la forme normale de l'aliment devient biologique. Les trois quarts, on m'a expliqué ça le jour, que les trois quarts des salades qu'on mange n'ont jamais été plantées en terre. Parce qu'on les met sur des supports de bois et on se contente de brumiser d'alimenter avec un espèce de produit nutritif les racines, mais elles n'ont jamais été plantées en terre. Alors si vous voulez manger des salades biologiques, il faut que ça soit des salades où il y a un grand tampon marqué dessus qu'elles ont été vraiment plantées en terre. Mais c'est très étonnant, vous voyez, c'est une petite image, mais c'est la même chose du côté de l'intelligence. On ne nous sert que des sous-produits. Tout est déjà trafiqué. Et l'intelligence, elle est faite pour revenir à l'état, vous voyez, encore une fois, au réel brut. À celui qui est vraiment dans la terre, pas à celui qui est déjà trafiqué par l'image, qui est déjà trafiqué par l'information, qui est déjà prédigéré. Alors évidemment, c'est plus violent. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. C'est quelqu'un que vous nourrissez qu'avec du Coca-Cola, des hamburgers et de la nourriture, vous lui faites manger une véritable carotte, il va trouver ça effrayant la première fois. Vous voyez, je veux dire, vous prenez un bon petit Parisien, un bon petit Français, vous le mettez dans des conditions climatiques au beau milieu du Sahara, il va croire périr de froid et de chaud au bout de 5 minutes. Parce qu'il a tellement été habitué à vivre avec une carapace et dans du cocon, que dès qu'il est dans des conditions réelles, vous voyez, il n'arrive plus à supporter. Ben, c'est la même chose si je n'ai qu'une nourriture adaptée, vous voyez, adaptée à... En fait, apparemment adaptée à mon imaginaire. Au début, je ne supporte pas la réalité. Mais la réalité est insupportable à celui qu'on a appris à vivre dans l'imaginaire. Si on ne m'a servi que ce qui est selon mon affectivité et selon ma sensibilité, dès qu'on me met face au réel, il me fait peur. Donc il faut voir que cette confrontation d'intelligence avec le réel, c'est en même temps ce qui la repose. Mais ça ne repose pas du tout l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, la seule chose qu'il aime, c'est lui-même. Alors être obligé de s'affronter à quelque chose qui lui résiste, au bout d'un certain temps, s'il est un peu trop développé, il ne supporte pas. Si vous voulez, la connaissance affective, quand elle est repliée sur lui-même, elle est extrêmement capricieuse et susceptible. Et elle ne supporte plus et à ce moment-là, toute réalité objective lui apparaît comme une négation. C'est Sartre, à la limite c'est Sartre. Quand il dit l'enfer, c'est l'autre. Il faut voir qu'on est... Vous voyez, on a... C'est pour ça que c'est pas du tout évident de redécouvrir l'intelligence. C'est que spontanément, nous, on est éduqués dans une attitude de peur par rapport au réel. Alors, on a essayé de situer l'intelligence. Et on a vu qu'au fond, cette capacité de recevoir le réel, elle a quelque chose d'analogue à ce que je vois dans la foi. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment la foi est une certaine forme de connaissance. Et je vous disais, la première analogie, la première forme de connaissance humaine qui me fasse comprendre ce que c'est que la foi, c'est précisément d'une part le jugement d'existence, c'est-à-dire le lien direct avec le réel, le ceci est. Surtout quand ce jugement d'existence, il a acquis la richesse de la sagesse. C'est-à-dire que je ne me contente pas de constater que c'est là, mais mon intelligence arrive à pénétrer la réalité dans toute sa richesse. La foi, elle implique ça. Il y a une luminosité dans la foi. La foi, c'est un don de lumière qui atteint réellement quelque chose, qui touche vraiment quelque chose. C'est Aristote qui dit que le jugement, c'est comme un toucher. Dans la foi, j'atteins le réel, qui est Dieu. Et la foi, elle est d'abord ça. C'est d'abord le don de ce lien de mon intelligence de manière immédiate par rapport à Dieu. Alors, ce qu'il faut immédiatement corriger, c'est que c'est aussi très obscur. C'est ça qui est bizarre. Il y a de la lumière, mais c'est très obscur. Alors, le problème est de savoir pourquoi c'est obscur. Parce que je vois bien que, même si j'atteins quelque chose, la grande différence avec ce jugement d'existence-là, c'est que je n'ai pas d'évidence. Là, j'ai une évidence. Quand vous êtes face à une table, vous avez l'évidence que c'est une table, et c'est reposant que ce soit une table. Et cette évidence, elle vous donne une certitude. Je suis certain que c'est une table, parce que c'est évident, et c'est évident par soi-même. Je n'ai pas besoin de me le prouver. Mais c'est ça qui n'est pas commode par rapport à la science, c'est que, parce que présentement, il n'y a pas de médiation d'un modèle, la réalité prouve à elle, vous voyez, elle est la propre preuve de son existence. Je n'ai pas à chercher d'autres preuves que la réalité existe qu'elle-même. Vous voyez, c'est là qu'on voit qu'on a une intelligence tordue. Nous, on ne croit que ce qu'on nous prouve. C'est-à-dire, au fond, quand on arrive à me montrer une logique intérieure à mon intelligence. Et à la limite, on est plus content qu'on nous ait prouvé quelque chose que ce qu'on nous a prouvé. On vous a prouvé que les Français étaient les plus intelligents. On vous l'a prouvé. Mais les Français, ça ne vous intéresse pas du tout. Ça ne vous intéresse pas, la réalité ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la conclusion. L'important, c'est que je sache que j'ai raison. Mais ce sur quoi j'ai raison, ça a peu d'importance. L'important, c'est que c'est moi qui ai raison. J'ai la vérité. Vous voyez, et on a du mal à voir que l'évidence, elle produit la certitude. Mais ce dont je vis, c'est de l'évidence. Je ne vis pas de la certitude au point de vue humain. La preuve, je suis certain scientifiquement que la Terre est à une certaine distance du Soleil. Mais j'en ai pas du tout l'évidence. Parce que je suis incapable d'estimer la distance. Tant que je suis ici, je ne peux pas estimer. Donc je n'ai aucune évidence de la distance réelle qui sépare le Soleil de la Terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop rire Quand on voit les Grecs qui imaginaient qu'on était dans un monde fixe, comment vous avez le moyen de savoir que vous n'êtes pas dans un monde fixe? Vous n'avez aucune évidence que la Terre est en mouvement, aucune. Vous en avez la certitude scientifique, mais vous n'en avez aucune évidence. Et donc ça vous sert à rien du tout quant à votre vie immédiate de savoir que la Terre tourne. Par contre, de savoir que ce que vous avez dessous les pieds, c'est du sol, et que le frère que vous avez devant vous, c'est vraiment votre frère, et c'est vraiment lui, ça c'est capital. Mais c'est important de voir que... C'est pour ça que le lieu natif, ou si vous voulez, le lieu normal de la certitude, c'est l'évidence. Je dis ça parce que le bon Descartes, qui est le grand-père de notre Occident, du point de vue de la pensée, eh bien, ça n'intéresse pas du tout l'évidence. Ce qui l'intéresse, c'est la certitude. Sur quoi je puis m'appuyer? Mais je dirais, c'est déjà une réflexe de peur, ça. Je suis agressé, alors faut bien que je m'agrippe à quelque chose. Parce que l'évidence, c'est fragile, l'évidence. L'évidence, je grandis. Au début, il me semble que c'est ça. Et puis, plus ça va, et plus je vais vraiment voir que c'est comme ça. Et Descartes, il dit, mais c'est beaucoup trop risqué, cette histoire-là, parce qu'en attendant, on va se faire avoir. Et si c'était pas vraiment comme ça, au fond? Si au fond, la table, c'était pas vraiment une table? Et si j'étais en train de me faire avoir à croire que c'est une table? Donc Descartes dit, l'important c'est de quoi je suis sûr. Là au moins je peux m'appuyer. Alors il dit, la seule chose que je suis sûr, c'est que je suis en train de me poser la question de si c'est vraiment une table. Ça j'en suis sûr, que je cogite, ça j'en suis sûr. Et donc là j'en suis sûr, donc je pars de ça. Le problème c'est que partant de ça, il n'arrivera à rien d'autre qu'à lui-même. Si vous partez du fait que vous pensez, vous n'arriverez à rien d'autre que le fait que vous pensez. Et vous mourrez tout seul dans votre pensée. Mais c'est important de voir que nous, alors on va chercher des certitudes scientifiques. L'important, ce n'est pas la certitude, la nourriture, si vous voulez. Je dirais presque que l'évidence, c'est le signe d'une intelligence qui se nourrit bien. C'est comme un petit enfant qui a bien mangé. Il a des bonnes joues roses et il sourit. Et bien, l'évidence, c'est le sourire de l'intelligence, mais qui est vraiment en face de la réalité et qui se repose dans la réalité et qui est faite pour ça. Alors elle a comme fruit selon la certitude, et c'est vrai qu'au niveau de l'expérience humaine, la manière de répondre aux doutes, c'est pas d'aller chercher des certitudes, c'est de revenir à l'évidence. Oui,
l'évidence, elle est en lien avec l'essence propre uniquement, alors?
Oui, elle est premièrement en lien avec l'essence propre. Pour ça que le lieu... C'est pour ça que d'écouter un son réel, pas un son retransmis, de voir une couleur réelle, de goûter une véritable carotte et pas un yaourt sur lequel il y a marqué goût de carotte. Parce que quand on vous dit goût de carotte, c'est même pas sûr qu'il y ait des carottes dedans. Ça veut dire qu'on va réussir à produire en vous le même effet que si c'était une carotte. Vous voyez, c'est la fameuse histoire des odeurs de voitures neuves. Toutes les voitures, on met dedans, avant de les vendre, une odeur de voiture neuve. Parce qu'on sait que si les gens, mais vous riez, que s'il n'y a pas cette odeur-là, vous n'achèterez pas la voiture. Non mais vous riez, c'est parfaitement vrai, c'est un produit de synthèse. Et on l'a analysé psychologiquement. Que si votre voiture n'a pas l'odeur qui est prévue, vous ne l'achetez pas parce qu'elle n'est pas neuve. Mais c'est important, les gens ne sont pas bêtes. Mais c'est pas évident qu'elle est neuve. Par contre, vous êtes certain qu'elle est neuve parce qu'elle a l'odeur. Qu'il n'y ait pas de moteur sous le capot, ça n'a pas d'importance. Parce que, subjectivement, vous avez la certitude, on vous a convaincu qu'elle était neuve. Oui, je crois que ça, c'est capital. Et donc, de voir que, du coup, c'est une épreuve très grande pour l'intelligence que d'atteindre réellement quelque chose dont elle n'a pas l'évidence. Et dans la foi, ce n'est pas commode. Alors du coup, je vais dire, mais puisque j'en ai pas l'évidence, en fait, je l'atteins pas vraiment. Je m'auto-suggère que je l'atteins, mais je l'atteins pas. Oui, je vais dire, mais voilà, la certitude de la foi, c'est comme les autres certitudes, sans évidence. Je vous dis, c'est, au fond, je crois que Dieu existe, comme je crois qu'il y a une certaine distance entre le ciel et la terre et le soleil. J'y crois. Or, précisément, il y a un réel jugement. Et la certitude de la foi, elle vient de ce jugement. Sans évidence. C'est ça qui est le mystère de la foi. Ça, c'est humainement, c'est pas possible de faire ça. Mais c'est ce que Dieu fait. Alors, il faut se demander, on va essayer d'abord de comprendre comment il fait, et ensuite on se demandera pourquoi il fait ça. Vous voyez, et je ne peux pas... Alors, dire que j'ai l'évidence, ça s'appelle l'illuminisme. C'est celui qui dit, moi, je sais que je fais la volonté de Dieu. C'est évident que je fais la volonté de Dieu. Et le mystère de la Sainte Trinité, mais c'est une évidence. C'est parfaitement clair. Alors, de manière moins forte, moins illuminée, c'est de dire, mais au fond, qu'on est des créatures, c'est évident. C'est pas vrai, c'est pas du tout évident. C'est pas marqué sur la tête des gens que c'est des créatures. D'ailleurs, c'est pas évident. À première vue, c'est pas évident non plus qu'on ait une âme. Vous voyez, c'est important de voir qu'il y a une progression dans l'évidence. Et que dans la foi, je ne l'ai pas, cette évidence. Alors c'est bizarre d'avoir une lumière sans évidence. Ça, c'est la première analogie. Alors pour me servir, vous voyez, je vais essayer de comprendre en plus. Quels sont les types de connaissances dans lesquels il n'y a pas d'évidence ? Et qui en même temps implique une adhésion. Parce qu'il y a un jugement, mais il y a aussi une adhésion. Il y a aussi quelque chose d'affectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas obligé de croire. Je dois consentir à croire. Ce qui est bizarre, parce que ça, vous n'avez pas à consentir que c'est une table. On ne demande pas de consentir, c'est une table. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, ça ne change rien, c'est une table. Et que votre intelligence le voit. Que subjectivement vous ne vouliez pas le reconnaître, ça c'est votre problème. Mais ça n'empêche que votre intelligence ne peut pas voir autre chose que le fait que c'est une table. Alors que vous pouvez consentir ou refuser cette adhésion. Vous voyez, le terme de l'adhésion, c'est un jugement. C'est-à-dire que j'atteins réellement ce en quoi je crois. C'est très beau, c'est un enfant de troisième qui avait cette remarque étonnante qui m'a dit, mais au fond, on a la certitude... Je ne sais plus comment est-ce qu'il a formulé ça. Il m'a dit, on est vraiment certain que Dieu existe que quand on y croit. Et c'est très beau comme formule. Effectivement, il faut que je consente à croire pour atteindre vraiment cette réalité. Ce n'est pas préalable. Dieu ne me prouve pas qu'il existe et ensuite il me demande de l'accepter. Il me demande une adhésion. Mon intelligence doit être inclinée volontairement à adhérer au mystère. Mais je ne me contente pas de l'adhésion. Alors on va voir. L'analogue de l'adhésion, c'est ça la croyance. Dans la croyance, j'adhère à ce que m'on dit. J'adhère à une parole. On vous dit que le Christ est ressuscité. Il y a quelque chose d'analogue à ce que vous faites quand vous adhérez, quand vous croyez humainement à la parole d'un autre. Je vous dis que hier j'ai vu un camion rouge qui roulait vite, qui transportait du lait. Je vous le dis. Est-ce que vous me croyez ? Et pourquoi vous me croyez ? Vous n'en avez aucune évidence. Et pourtant, vous allez, dans certains cas, vous allez y croire. Vous n'allez même pas spontanément dire, de toute façon, tout ce que j'expérimente pas, ça ne m'intéresse pas. L'enfant, il croit à ce qu'on lui dit. Et progressivement, il a précisément à apprendre à discerner dans ce qu'on lui dit, ce qui était vrai, ce qui était faux. Alors, vous voyez, dans la foi, il y a quelque chose qui est analogue aussi à la croyance, à cause de l'adhésion. Notamment quelque chose d'analogue à la croyance dans la parole des traditions religieuses. J'ai pas la foi tout seul. Je n'ai la foi... Je n'exerce ma foi, plus exactement, que parce qu'on me parle du Christ, que parce que je reçois un enseignement et une parole, que parce que je reçois des signes que sont les sacrements. Vous voyez, là il y a la médiation, là il y a une médiation. Là il n'y a pas de médiation. Là il y a une médiation. L'évangile. Les témoins de l'évangile. Les saints, les apôtres, les sacrements, l'église, il y a une médiation. Là, vous voyez, on va revenir dessus, mais c'est très important de voir qu'il y a les deux et que je ne peux pas opter pour l'un ou opter pour l'autre. Si je refuse, qu'il y ait une adhésion, je me dis, je finirai par dire, mais c'est évident, c'est évident. J'ai besoin de personne pour savoir que le Christ existe. Je le sais de manière intuitive et parfaite. C'est qu'au fond, je suis quasiment en vision béatifique. C'est pour ça que je suis certain que je fais la volonté de Dieu, que je suis envoyé en mission par lui. Quoi que vous m'en disiez. Ça, c'est parce qu'on refuse le fait que la foi implique une adhésion et que cette adhésion, elle passe par une médiation. Je crois au Christ par sa parole, par ses sacrements, par ses saints, par son Église. Alors, encore une fois, on va revoir que cette médiation, elle est faite pour s'effacer, comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est faite pour me laisser devant Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est faite pour me laisser devant Dieu qu'elle n'existe pas. Elle existe. Alors, vous pouvez faire aussi l'inverse. C'est-à-dire, non, ça, c'est en fait, c'est les mystiques qui prétendent cette histoire-là, mais ça, c'est pas vrai. En fait, il n'y a qu'une adhésion. C'est-à-dire que la foi, c'est comme la croyance. Sauf que c'est un peu plus solide. Qu'au fond, il y a des gens qui croient à Mahomet, il y en a d'autres qui croient à Bouddha, il y en a qui croient à la réincarnation, il y en a d'autres qui croient au Big Bang, et puis il y en a d'autres qui croient à l'évolution, et moi je crois à Jésus. C'est vrai, je ne regarde que l'adhésion. Et alors là, je doute. Là, j'ai toutes les raisons de douter. Mais ça, là, je ne peux pas douter. Quand j'atteins, je ne peux pas douter. Je peux ne pas avoir l'évidence, c'est que ça peut être très douloureux, mais j'ai la certitude du fait même que je l'atteins. Par contre, là, je peux douter. C'est-à-dire qu'avant de croire, avant d'adhérer, je peux douter. Mais à partir du moment où je crois, je ne peux plus douter. Donc, il ne faut pas confondre la croyance ou cette adhésion que réclame la foi et le terme de la foi, ou si vous voulez, le don même de la foi, qui est cette lumière divine. Mais cette lumière divine, elle m'est donnée dans une adhésion. Ou si vous voulez, c'est pour ça que c'est une alliance. C'est qu'il y a un échange entre Dieu et l'homme. L'homme lui donne son cœur et Dieu lui répond par sa lumière. L'homme lui donne même son cœur et son intelligence. Et en fait, dans la foi, cette adhésion elle-même, elle est déjà de me laisser attirer par le don de Dieu. Donc c'est déjà un don de Dieu, ça. Vous voyez, Dieu commence par incliner, c'est pour ça qu'on dira que la foi, ça commence par la pia affectio. Par l'affection aimante, c'est-à-dire que je suis attiré à croire, je suis incliné à croire. Ça, c'est le commencement de la foi. Mais si j'accepte d'aller de céder à cette attraction de la lumière, alors je reçois vraiment la lumière divine. Et ça, c'est le don de Dieu. Mais la tentation, c'est de rester là. Dieu, bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il faudrait quand même. Ça dépend des jours. Il faut que j'y croie, mais enfin, vous voyez, ça, on ne sait jamais, donc il faudrait. C'est quand même bien de croire parce que ça fait partie des assurances. Tout risque. C'est que, au fond, si c'était vrai, ça pourrait. Vous voyez. Et si vous avez beaucoup de gens qui croient comme ça. Hier, c'était étonnant, le nombre de gens. Il y a beaucoup plus de gens qui vont mettre des fleurs dans les cimetières que de gens qui vont à l'église. Il y avait des gens partout. En plus, c'est pas le jour. C'est pas le premier. C'est pas la Toussaint, c'est le 2 novembre, au point de vue de l'église. Donc, ce qui montre bien que c'est pas lié à la foi, à l'évangile et à l'église. Ça fait partie. C'est de la croyance. On sait jamais, quoi, au fond. Alors des fois c'est parce qu'on se dit que si on n'allait pas mettre des fleurs à ceux qui sont morts, des fois ils risqueraient de nous en vouloir. D'autres fois c'est qu'on se dit, ben voilà, quand on sera dans le même état, on nous apportera des fleurs. Enfin, les motifs, c'est vrai, il faudrait faire un sondage sur les motifs pour lesquels les gens vont mettre des fleurs dans les cimetières. Et vous verriez que c'est pas toujours l'évangile. Mais donc c'est important de voir que si je reste dans si je reste dans cette espèce de premier moment et que qu'est-ce que je fais? Je joue à cache-cache avec Dieu, quoi. Il ne faudrait quand même pas que j'ai l'air stupide, si vous voulez, de me mettre à croire des choses qui ne sont quand même pas raisonnables. De croire que la vie éternelle, c'est plus réel que ce qu'il y a de quotidien dans ma souffrance, c'est quand même pas raisonnable. Et de commencer à croire que moi, je peux vivre comme quelqu'un de ressuscité, il ne faut quand même pas, vous voyez, c'est un manque d'humilité notoire. Parce que je commence à me considérer plus que les autres. Enfin, on a toutes les bonnes raisons, ou on nous aide à avoir toutes les bonnes raisons pour rester là-dedans. Et pour ne pas entrer dans le don de la foi. À laquelle l'adhésion est faite elle est faite pour conduire au don de la grâce, l'adhésion.
Pour un incroyant, on peut lui demander en quoi il ne croit pas, puisque c'est justement du subjectif. Il appréhende une réalité qu'il ne connaît pas.
Là oui, l'incroyant, ce qu'il est capable, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre la logique de la croyance chrétienne. Il peut essayer, il n'y arrivera pas. sera obligé de reconnaître que la logique de la croyance chrétienne, elle n'est pas logique en elle-même. Elle est logique en fonction de quelqu'un d'autre, qui s'appelle Jésus. Même s'il ne sait pas qui c'est, la seule chose qu'il peut voir, c'est que dans le croyant, ce n'est pas interne la logique du croyant. C'est dépendant d'un autre.
Il ne peut pas appréhender ce en quoi il ne croit pas.
Voilà.
C'est parce qu'il,
voilà.
C'est pas en quoi
voilà.
Il croit pas.
C'est pour ça que tout discours théologique, tout discours sur la foi, n'a pas vraiment de sens pour celui qui n'a pas la foi. Parce qu'il reste là. Et on va voir qu'il n'a pas la lumière. Inversement, ça veut dire que même pour le croyant, si j'essaye de comprendre la parole de Dieu sans la lumière de la foi, je ne comprends pas. Ou je la trafique, si vous voulez, mais je la respecte pas. Alors, vous voyez, c'est ça qui est complexe. Hein. Alors, on va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que Dieu s'est fatigué à faire quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que c'est... Ça serait plus simple si c'était autrement. C'est vrai que ça serait plus simple, mais il n'y aurait pas cet échange dans l'ordre de l'amour entre Dieu et la personne humaine. Et on verrait même que... On va même voir que la raison pour laquelle Dieu, à la fois, me fait atteindre son mystère et me laisse dans l'obscurité, c'est précisément pour me permettre de vivre de ce mystère tout en étant sur la terre. Vous comprenez bien, si j'avais l'évidence de ce que je vois, je ne serais plus ici. Je vivrais le mystère de l'Assomption. Alors la question, c'est reporter à l'action, pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on... C'est le mystère de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on est encore là? Pourquoi est-ce qu'il veut que tout en vivant de ça, on soit encore ici? On va repréciser, hein, encore une dernière fois, parce que c'est important de voir comment est-ce que... Alors, je ne comprends pas ça, mais c'est négativement. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Et comment se fait-il que Dieu me donne cette lumière sans que ça soit complètement lumineux? Ça, je ne le comprends pas, je le vis. C'est un mystère, le don de la foi. Par contre, je peux le comparer, mais c'est là que je vois qu'il y a quelque chose à voir avec l'intelligence. C'est pour ça que ce qu'on commence à voir, c'est que la foi, elle est reçue dans l'intelligence. La foi, c'est une manière divine d'exercer l'intelligence. Puisque mon intelligence, et par mon intelligence toute ma vie, est illuminée de la lumière même de Dieu, qui est Dieu lui-même. Ça veut dire que j'atteins réellement Dieu de manière immédiate dans ce qu'il est. Mais que je ne le vois pas. Je n'ai pas l'évidence. Je ne le vois pas. J'en vis, mais je ne le vois pas. Et donc, l'intelligence, mais je peux comparer, c'est ça le travail de la théologie, comparer l'exercice, la manière dont l'intelligence s'exerce divinement dans la foi, d'une part au jugement d'existence, par rapport à la sagesse, puisque ce que j'atteins, c'est Dieu. C'est même encore infiniment plus que la sagesse. Dans la sagesse, j'atteins pas Dieu, directement. Donc, si vous voulez, ça me fait comprendre comment est-ce que l'exercice divin de l'intelligence dans la foi me fait directement atteindre Dieu, et donc j'atteins ce pourquoi je suis fait, c'est-à-dire contempler Dieu. C'est pour ça que la foi, c'est le repos. Saint Thomas dirait, ça nous met aux limites de la béatitude. Je l'atteins déjà, la béatitude, c'était l'évangile de la Toussaint. On ne vous dit pas bienheureux serez-vous. On dit heureux ceux qui. Heureux ceux qui pleurent. Ils verront Dieu. On ne dit pas ceux qui pleurent, ils seront heureux de voir Dieu. Ce n'est pas heureux ceux qui pleurent, ils verront Dieu d'ailleurs. Mais... Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Vous avez remarqué, c'est pas. Vous inquiétez pas, vous pleurez, mais un jour vous serez consolé. Ça, c'est pas la béatitude, c'est au fond, bavez-en sur la terre, vous serez récompensé au ciel. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas du tout l'évangile. Il n'y a pas besoin de Jésus pour ça. L'Ancien Testament suffisait. En disant, un jour vous recevrez la promesse. Mais Jésus dit, heureux ceux qui pleurent. Ça veut dire qu'ils sont actuellement heureux, ceux qui pleurent. En plus, ils seront consolés. C'est-à-dire que la béatitude, ils l'ont. Consolés, c'est, vous voyez, c'est l'équivalent de l'évidence, ça, ils l'auront. Je n'ai pas encore la consolation, au sens plénier, parce que je suis encore capable de pleurer. Mais ce n'est pas parce que je pleure que la béatitude ne m'est pas donnée. mais elle n'est pas au point que dans ma sensibilité je sois consolé. Je suis consolé au plus profond de mon âme, mais pas dans ma sensibilité. Mais c'est ça, les béatitudes, c'est ça. C'est que je l'atteins, la béatitude. C'est maintenant, c'est pas demain.
Session de théologie à Rimont, le 2 novembre 1991. Dixième cours, 11h30. Père Samuel, foi et intelligence.
Il y a un petit changement de programme. Cet après-midi, il y aura 2 heures de cours sur la foi et l'intelligence parce que le Père Philippe n'arrive que ce soir. Donc la partie sur le Christ commencera que ce soir. Donc si vous avez des questions, on a 2 heures pour y répondre. Alors, comment dire que la seule réalité, c'est la vie éternelle ? J'ai pas dit ça. Hein. Puisque ce qui est réel, c'est ce que j'approche par mes sens propres, et que la vie éternelle, je ne l'approche pas par mes sens propres. Alors, c'est pas les sens propres, c'est les sensibles propres. Les sens, c'est les 5 sens. Les sensibles, c'est l'objet des sens. Il y a la vue et il y a la couleur. Le sensible propre, il est du côté de la couleur. C'est les sensibles propres. Alors, la vie éternelle n'est pas la seule réalité, mais c'est ce qui est plus réel. C'est pas parce que c'est plus réel que le reste ne l'est pas. Alors, c'est sûr que c'est pas par mon intelligence humaine et la philosophie que je peux affirmer que la vie éternelle est ce qu'il y a de plus réel. Je peux réussir à affirmer que c'est Dieu qui est ce qu'il y a de plus réel. Mais par la grâce, par la foi, je vis de ce réalisme de la vie éternelle. Alors évidemment, le danger, c'est du coup de se dire que tout le reste, c'est de l'illusion. Mais c'est toujours le danger, c'est que nous, quand on découvre quelque chose de nouveau, on a tendance à supprimer tout ce qu'on a vu avant. On dit, ben voilà, ça c'est génial, donc tout le reste, c'est nettement moins bien. On voit ça chez les jeunes, les enfants, les jeunes. Chaque fois qu'ils découvrent une nouvelle chose, alors il y a des modes. Un jeune de 12 ans qui découvre, je ne sais pas trop quoi, le skateboard, ou alors il n'y a plus rien d'autre. Tout le reste, c'est stupide. Puis après, il va découvrir les mathématiques. Plus rare, mais ça arrive. Et du coup, tout le reste devient... Et nous, on est un peu comme ça. C'est-à-dire que... Alors, le jour où on découvre la foi, on se convertit au Christ, on découvre le Christ, mais alors tout le reste ne vaut plus un clou. Or, c'est pas vrai. La sagesse de Dieu fait que, même si la grâce est infiniment plus que la création, c'est pas pour autant que la création, c'est rien. La création, c'est déjà immense. Mais c'est pas en rabaissant ce qui est moins que j'élève ce qui est plus. C'est pas en rabaissant l'homme que j'élève Dieu. Au contraire, plus je découvre la grandeur de l'homme, et plus je découvre l'infinie grandeur de Dieu. Plus je découvre la richesse du réalisme, du réel, de la personne humaine et de la contemplation humaine, et plus je découvre que la contemplation divine, c'est infiniment plus. C'est très bizarre ça, c'est pas du tout, vous voyez, c'est pas en écrasant le voisin qu'on atteint le mieux ce qu'on a de parfait. Au contraire. C'est dans l'humilité de l'amour qu'on atteint la plus grande richesse de ce qu'on est. Ben vous voyez, c'est précisément ce qu'on risque de rencontrer, c'est que il y a des expériences, des découvertes de la foi qui se font ou bien selon une voie ou bien plutôt selon l'autre. Quand on a été, et c'est la manière par exemple dont notre pape Jean-Paul II raconte, enfin exprime la manière dont il a vécu sa foi, à travers les traditions familiales, à travers toute une formation familiale, et qu'au fond les traditions religieuses, la lumière de Dieu, elle est comme apparue à l'intérieur de cette tradition. L'enfant commence par recevoir ce que lui disent ses parents, comme on reçoit une tradition. Il n'est pas encore capable de choisir. Et il dit, mais au fond, que pour lui, il n'y a pas eu de conversion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment où il y a eu une illumination soudaine, comme si avant il n'y avait rien et tout d'un coup ça devenait tout. Vous voyez, c'est pour dire que ça, je distingue les deux. Hein. Je dis, il y a deux analogies. Mais la foi, c'est les deux. Alors dans certains cas, entre le converti... comme Paul sur le chemin de Damas, vous voyez, qui est éclairé directement par la lumière divine, il risque d'avoir l'impression qu'il n'a pas besoin de la parole, de la tradition religieuse, de la médiation de l'Église. Il dit, mais moi, Dieu me suffit. Le Christ me suffit. J'ai besoin de rien d'autre. L'Esprit Saint m'éclaire directement. C'est pas juste, parce que dans toute conversion, aussi foudroyante soit-elle, il y a toujours une parole, un lieu, un signe. Saint Paul, il entend une voix qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu ? Dans cette parole-là, il y a toute la parole de Dieu. Et ensuite, d'ailleurs, spontanément, il vient recevoir, il demande à recevoir le baptême, et il reçoit un enseignement. Alors, il reçoit un enseignement intérieur qui est confirmé par l'Église. Parce qu'ensuite, il va voir Paul et Jean à Jérusalem pour être conforté dans ce qu'il lui semble devoir croire. Donc c'est important de voir que je ne peux pas séparer l'un et l'autre. Et que... Alors c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant. Cette lumière divine, elle éclaire de l'intérieur la parole. La parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, c'est une parole humaine. Je peux lire la parole de Dieu et lire ce que dit le pape sans avoir la foi. Ça veut dire quelque chose. Je ne peux pas atteindre... quand il s'agit vraiment de choses qui portent sur la foi, atteindre la réalité dont il parle, mais je peux quand même comprendre la logique de son discours. Donc je peux comparer la parole de Dieu, l'écriture, aux autres traditions religieuses. Je peux comparer l'enseignement de l'Église à une autre forme d'enseignement religieux. Ce qui lui donne, ce qui fait que l'écriture est parole de Dieu, ou la manière dont je découvre que l'écriture est parole de Dieu, c'est pas en travaillant sur sa signification humaine. C'est en laissant la lumière de Dieu éclairer de l'intérieur cette parole. Et c'est la lumière divine qui donne à cette parole un sens personnel. Je peux avoir lu 200 fois Jésus qui dit à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas, va, ne pêche plus, puis un beau jour je l'entends. Je l'ai lu, puis un beau jour je l'entends. C'est la lumière de la foi qui fait que je l'entends. Et c'est vrai que nous, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on lit et il n'y en a pas beaucoup qu'on entend. Alors qu'on est capable de tout entendre. Si on avait une foi un peu vive, vous voyez, si vraiment on se mettait sous la lumière et dans la lumière de Dieu, par la foi, chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on ne ferait que l'entendre. C'est-à-dire que toute parole, alors avant que le Lévitique ou le livre des Nombres devienne personnel, ça prendra peut-être plus de temps. Mais au moins l'Évangile. C'est fait directement pour moi. Mais c'est pour ça que c'est important de voir que le don de la foi illumine de l'intérieur la parole. Alors ça ne veut pas dire que je vais avoir des idées nouvelles, mais ça veut dire que je vais atteindre ce dont Jésus me parle. Jusque là j'essayais de comprendre ce dont il parlait. Et la tentation, c'est de faire ce qu'ont fait les disciples. C'est la tentation du croyant, c'est la tentation des hommes dans l'église. C'est d'écouter ce que dit Jésus et puis de se faire une idée de ce qu'il dit. Vous voyez, c'est-à-dire que j'entends le Christ qui dit à Pierre, m'aimes-tu ? Et je me fais une idée de ce qu'il dit en fonction de la compréhension que moi j'ai de l'amour. Au lieu de recevoir ce que dit le Christ et de lui demander à lui-même de me faire atteindre par le cœur, dans la foi, ce que lui, il entend par l'amour. Vous voyez, le risque, c'est de récupérer humainement la signification de la parole de Dieu, de l'interpréter à la mesure de ma compréhension. Et c'est vrai que c'est ça, l'épreuve de la foi dans la lecture de la parole de Dieu, c'est de tout faire pour la comprendre, mais en sachant que la lumière dernière, il n'y a que Dieu qui me la donne. Mais il faut qu'il y ait tout ce travail de préparation. Vous voyez, on commence à voir qu'au fond, le fait même qu'il y ait la parole de Dieu, qu'il y ait cette médiation, va impliquer tout un travail, toute une coopération. Il va falloir que je laboure la terre de mon intelligence pour être le moins bête possible face à ce que dit Jésus. Mais non seulement il va falloir que j'essaye d'être intelligent, mais il va falloir que j'aie le courage de ne pas m'arrêter à ce que je crois comprendre. Les pharisiens sont des gens qui ont une grille de lecture, c'est-à-dire qu'ils savent déjà, eux ils savent. Ensuite, tout ce que dit Jésus, ils le rangent dans la grille. Et ça leur donne une interprétation de la parole du Christ. Alors, ce n'est pas une grille de lecture très intelligente, hein, mais les nôtres ne sont pas beaucoup mieux. Mais non seulement ils ont une grille de lecture, mais en plus du coup, ils refusent, un, d'entrer dans la logique de ce que dit Jésus, et deux, ils le refusent lui tout court. Mais ce qui n'est pas facile, c'est d'exercer son intelligence en la laissant être illuminée par la lumière de la grâce. C'est plus facile de dire, mais moi je suis bête, donc ça ne sert à rien. Moi, je ne peux vivre que comme un petit, donc je reçois la lumière, il ne faut pas me demander de coopérer, je ne suis pas capable, parce que je suis bête. Ça, c'est facile, ça. C'est la bonne planque. Parce que du coup, on ne donne pas son intelligence. Il y a les gens qui sont bêtes, ils ne le savent pas. Je vous signale. Si vous dites que vous l'êtes, ça prouve que vous ne l'êtes pas. Et c'est très important de voir que bien sûr que le don de la lumière, dans un premier temps, il ne m'est pas refusé sous prétexte que je n'ai pas coopéré. C'est que je n'ai pas essayé de mettre mon intelligence au service de la parole de Dieu. Mais comme Dieu ne bénit pas la paresse, au bout d'un certain temps, vous voyez, au début, je vais réussir à garder la ferveur de l'amour, même sans développer l'intelligence. Mais au bout d'un certain temps, ça va baisser. Et l'amour finira par s'éteindre tout seul. Parce qu'on sait bien que quand l'intelligence n'est pas renouvelée à l'intérieur de l'amour, il s'éteint. Inflexiblement. C'est une question de durée, alors il y a des descentes plus ou moins rapides. Et c'est important de voir que c'est la même chose pour la foi. Alors, je dirais, ça commence dès le moment où je suis capable de coopérer à ce que je reçois de la parole de Dieu. Et la manière d'aider un enfant à croire, c'est de lui apprendre, dès qu'il en est capable, à coopérer. Demander à un frère aîné d'expliquer à sa petite sœur ce que c'est que l'Eucharistie. Il va être obligé de quoi faire ? De s'appuyer sur la présence de Jésus et en même temps d'essayer de comprendre ce qui est dit dans la parole de Dieu ou ce qu'il sait de l'Eucharistie. Il fait œuvre de théologie. C'est très étonnant parce que dans certains cas, il a vraiment cette pauvreté de laisser le Christ l'éclairer vraiment et en même temps de coopérer. C'est un enfant qui se prépare à sa première communion. Ils étaient avec un petit ami, ils ont passé 2 jours au rythme de Saint-Judas. C'est-à-dire qu'ils ont vécu les offices, l'adoration, la messe. L'adoration, c'est une heure d'adoration en silence, ils bronchaient pas. Et alors, il a eu cette expression très belle, il expliquait à son ami, parce qu'il posait plein de questions. Alors, il disait, mais tu vois, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre ce que c'est que l'Eucharistie. Mais il y a un moment, il ne faut plus chercher à comprendre. Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous éclaire. Mais quand même, il ne faut pas renoncer à comprendre. C'est exactement ça, vous voyez. C'est, la lumière, elle m'est donnée. Mais cette lumière, du fait même qu'elle m'est donnée, elle réclame ma coopération. Et je dirais, le signe que le Seigneur réclame ma coopération, c'est qu'il me donne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est, c'est pour ça qu'elle est le signe de l'alliance, la parole de Dieu. Elle est le lieu de la rencontre, de l'offrande de mon intelligence avec la lumière divine. C'est pour ça que je ne peux pas prétendre nourrir ma foi en dehors de la parole de Dieu. Ça n'a pas de sens. Si Dieu me l'a donné pour me nourrir, c'est-à-dire précisément pour que j'apprenne lentement, parce que c'est lent d'offrir son intelligence à Dieu. Ça ne s'offre pas grosso, surtout que le Seigneur ne reçoit pas les cadeaux grosso modo. On ne s'offre pas en paquet à Dieu. Il n'y a pas de prix de gros. C'est dans le détail qu'il nous veut. Alors, bien sûr, on s'offre en tout ce qu'on est, ça c'est sûr. Mais ensuite, il accepte tout ce qu'on est. Mais ensuite, il nous demande tout dans le détail. Et à ce moment-là, l'intelligence, ça fait partie du détail, c'est même au cœur du détail, c'est même le centre. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux, l'intelligence. La volonté, la capacité d'aimer, elle est fêlée par le péché originel. Alors, on est guéri du péché originel par le baptême, mais les fêlures, les conséquences, elles demeurent. Et la volonté, elle est atteinte par ça. C'est vrai, on n'est pas capable d'aimer. C'est pas très difficile en face du Christ de le reconnaître. Par contre, on est capable de comprendre. Pour ça, je vous dis, quand on dit qu'on est bête, c'est dire qu'on n'est pas capable d'aimer, c'est parfaitement vrai. Ça n'offense pas le Seigneur, au contraire, c'est le commencement de l'humilité. Par contre, de prétendre qu'on est bête et qu'on n'est pas capable de comprendre, c'est une marque d'orgueil significative. Parce que précisément, Dieu m'a donné une intelligence qui n'est pas atteinte directement par le péché originel. Alors, elle est piratée par l'imaginaire, mais ça, c'est pas... Oui. Elle est envahie par l'imaginaire, mais comme telle, elle est faite pour s'exercer. Alors, il faut que j'apprenne à la désencombrer de l'imaginaire, ça, c'est sûr. Il y a la réalité de tous les jours, l'amour d'amitié et la philosophie sont là pour ça. Enfin, la réflexion de l'intelligence, elles sont là pour décrasser l'intelligence et la dégager de l'imaginaire. Mais c'est important de voir que si elle n'est pas atteinte par le péché originel, je dirais, Dieu réclame que je la lui offre en la faisant grandir. Je ne lui offre pas une... Vous savez, les animaux malingres et bâtards. C'est quand Dieu accuse les grands prêtres de ne lui offrir que les moutons cagneux, un peu malades, vieux et tout, et de eux de se garder les victimes de choix. C'est-à-dire que nous, on garde notre petit jugement propre sur notre propre vie, c'est-à-dire qu'on est toujours maître de nous-mêmes et de nos actes, même si on demande de temps en temps conseil à Dieu, mais on lui offre notre cœur, ça, il n'y a pas de problème. Mais notre jugement propre, on ne lui offre pas. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est le jugement propre. Le gouvernement de ma vie, c'est l'intelligence. C'est la même chose qui gouverne ma vie et qui connaît. Alors la manière dont elle est la plus personnelle, mon intelligence, c'est pas là qu'elle est le plus personnelle, mais c'est comme ça que c'est là que je la possède le plus. C'est dans mes choix, dans mes décisions, dans le gouvernement de mes actes. Et c'est ça que le Seigneur me demande d'offrir. Et le lieu de l'offrande, premier, c'est la foi. C'est donc de mettre toute ma capacité de comprendre, d'apprécier, de juger les choses au service de la lumière que Dieu me donne. C'est étonnant comme on est intelligent pour beaucoup de choses au point de vue humain, et qu'est-ce qu'on peut être bête pour la foi ? On rencontre ça souvent, hein, des chrétiens qui ont des postes scientifiques, d'autorité, de réflexion très grands, qui ont une intelligence très développée au point de vue pratique. Mais au niveau de la foi, ils sont à peine à la maternelle supérieure. Ils disent, c'est pas grave, c'est la foi du charbonnier. Bonne excuse. Et c'est important de voir que toute les talents, vous voyez, je dirais de donner ses talents au Seigneur, la mise en œuvre des talents, c'est en premier lieu les talents les plus riches, c'est l'intelligence et le cœur. Et donc la théologie, vous voyez, c'est important de voir que, je dirais, on va voir après la théologie, mais la réception de la parole de Dieu, où Dieu me parle pour m'obliger à ça, sinon il ne m'adresserait pas la parole. Il n'y a pas besoin de m'adresser la parole, il suffit qu'il me communique son amour dans le silence. Vous voyez, je dirais, le fait même que Dieu nous parle est une obligation, un, à mettre l'amour à l'intérieur de l'intelligence, parce que c'est lui qui me parle, il ne me donne pas un texte théologique. Il s'adresse, lui, à moi. Donc la parole me met directement en lien avec lui. Mais en plus, il me réclame d'être intelligent puisqu'il m'adresse la parole. Pour que je lui réponde. Donc que j'écoute un peu ce qu'il dit. Que j'essaye de comprendre ce qu'il me dit. c'est un bon exercice de prendre de temps en temps l'évangile et de s'apercevoir que ça fait 10 ans ou 20 ans ou 30 ans qu'on a l'impression qu'on connaît certaines choses et qu'en fait c'est l'évangile dit tout autre chose que ce qu'on a compris. C'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est le samaritain, la parabole du bon samaritain. Tout le monde se souvient que dans le bon samaritain il y a un pauvre homme qui est dans un fossé et qu'il y a des gens qui passent sur le chemin. Alors il y a un prêtre, un lévite, et puis il y en a un brave qui est un samaritain qui vient le ramasser dans son fossé.
D'accord.
Et on se souvient que Jésus demande, mais au fond, qui est mon prochain? Et que la morale de l'histoire, c'est que nous, on a à exercer la charité vis-à-vis des gens qui sont dans les fossés. Enfin, vous voyez, on a à aimer notre prochain, c'est-à-dire à aimer ceux qui sont pauvres et ceux qui ont besoin d'être aidés. Or, Jésus ne demande pas qui est le prochain du samaritain. Il demande qui c'est le prochain de l'homme qui est là. Ça veut dire que la question, c'est de savoir qui est mon prochain, c'est-à-dire qui est celui qui me ramasse, moi? Qui c'est qui me ramasse? C'est la vraie question, c'est pas savoir qui je ramasse. Qui est mon prochain? C'est Jésus. Donc la question, c'est de me laisser ramasser, c'est pas d'aller ramasser les autres. Après ça, j'irai ramasser les autres. Je ramasserai jamais les autres si je commence pas par un passage que je suis dans un fossé et que j'ai absolument besoin du premier prochain qui est le mien, qui s'appelle Jésus. Et lisez, vous verrez, c'est ce qui est dit dans la parabole. Alors nous, vous voyez, on transforme ça en fable de La Fontaine, c'est-à-dire que on retient les idées générales et alors on fait de l'évangile une espèce de morale avec des grandes conclusions, qu'il faut être bon avec son voisin, qu'il faut pas taper sur son petit frère, qu'il faut être sage et qu'il faut bien se tenir. Mais lisez l'évangile, c'est autrement plus, j'irais, plus agressif dans l'ordre de l'amour. Alors c'est pour ça on doit, vous voyez, j'irais, c'est le but, c'est pas l'intelligence comme telle, mais c'est vrai que le Seigneur réclame pour aimer vraiment qu'on réveille notre intelligence. On sait bien qu'un fiancé bête, c'est pire que tout. Et que le temps des fiançailles, c'est fait quand il est bête pour réveiller son intelligence. Et que sa fiancée lui fasse comprendre qu'elle n'épouse pas un nounours. Mais qu'elle veut épouser quelqu'un qu'il aime avec intelligence. C'est pour ça que c'est important le temps des fiançailles. Ben nous, on est toujours en état de fiançailles avec le Seigneur qui réclame de nous d'aimer avec intelligence. Et ça fait partie, vous voyez, intrinsèque de la foi. C'est pas quelque chose en plus qui est réservé pour ceux qui ont du temps. Ça fait partie de la nouvelle alliance. Parce que c'est clair que la compréhension, elle se fait par rapport à la parole. Mais ça, c'est une pédagogie de Dieu. Ce que j'ai à essayer de découvrir avec mon intelligence, c'est le Christ. C'est la personne du Christ. La parole, c'est une pédagogie. Et le Seigneur est bon, parce que si je n'étais que face à lui, ce serait bien trop difficile. Déjà, la personne humaine, j'ai tellement de mal à essayer de m'y mettre pour essayer de comprendre ce que j'aime, que lui, je dirais, mais bon, c'est un grand mystère, c'est beaucoup trop difficile. Alors, il me donne la parole, il me donne des paraboles, il me donne des histoires dans l'Ancien Testament où je me reconnais facilement. Il prend dans la parole de Dieu tous les moyens possibles et imaginables qui s'adressent selon chacun, et tout le monde peut y trouver sa nourriture. Il y a toutes les formes d'intelligence et de discours dans la parole de Dieu. Donc, on a toujours moyen de s'y retrouver. Mais la finalité, c'est que cet éveil de ma soif de voir Dieu, parce qu'en dernier recours, c'est ça, que ma soif de le voir m'apprenne à recevoir la lumière de Dieu à travers le Christ, de découvrir qu'il est la lumière. Et je vous disais que dans le Christ, précisément l'humanité du Christ, et il y a un parallèle à faire, entre l'écriture et la lumière de Dieu, et puis l'humanité de Jésus et sa divinité. D'apprendre à découvrir la lumière de la sagesse divine et la lumière de ce qu'est Dieu à travers l'écriture, dans la parole de Dieu, m'apprend à recevoir l'humanité du Christ qui se donne à moi par les sacrements, notamment par l'Eucharistie, pour recevoir le mystère du Verbe. Et on retrouve cet échange. C'est pour ça que la foi, c'est un échange. Ce que Dieu veut, c'est que la lumière, elle s'incarne en moi. Il ne veut pas simplement me la révéler. Il veut que cette révélation, elle prenne possession de moi. C'est-à-dire que le Verbe de Dieu, il prenne chair en moi, qu'il ait en moi une humanité de surcroît. Que la lumière de Dieu, je ne me contente pas qu'elle soit même dans mon intelligence, mais qu'elle m'habite. C'est pour ça que la coopération de la foi à l'intelligence, il a comme enjeu ma vie chrétienne. Le fait que je devienne lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Jésus ne me dit pas, est-ce que vous voulez bien devenir la lumière du monde? Il ne nous donne pas le choix. Hein. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc vous n'avez pas le droit de vous excuser en disant, tu comprends Seigneur, moi pauvre petite souris, faut pas me demander des choses que je ne suis pas capable. Mais c'est vrai que je ne suis pas la lumière du monde sans coopérer. C'est-à-dire qu'il me donne d'être la lumière du monde. Encore faut-il que je reçoive ce don. Et pour ça, il faut que la vitre à travers laquelle la lumière du Christ passe soit le moins sale possible. C'est ça la coopération d'intelligence. C'est de rendre les vitres propres. C'est pas de se remplir la tête de plein de choses. C'est de nettoyer les vitres. Pour que l'intelligence, elle soit... Parce que précisément, elle apprend à recevoir la réalité comme elle est, elle apprend à recevoir la lumière de Dieu comme elle est et à me traverser telle qu'elle est. Pour que je la trafique pas, de toute façon, je la trafiquerai toujours un peu. Parce que je suis pas... Vous voyez, mais que au moins je la trafique le moins possible. Et que ceux qui sont en face de moi, ils arrivent un minimum à recevoir cette lumière à travers moi, parce que Dieu n'a pas d'autre moyen que moi. Parce que sa parole, elle sera jamais proclamée sans moi. C'est pas d'aller acheter la Bible dans une librairie qui est le premier lieu de la... Ça peut être le lieu d'une conversion. Mais ensuite, si vous avez personne pour relayer, ça n'aboutit jamais. Vous voyez, la parole, comme la tradition, c'est pour ça qu'il y a un lien entre la parole et la tradition. La parole de Dieu et l'écriture, c'est à travers moi qu'elle est donnée aux autres. C'est par l'église qu'elle est donnée, mais l'église c'est nous. L'église c'est pas un organisme qui publie des documents qui s'appellent l'écriture. D'ailleurs, la preuve, si vous donnez à quelqu'un la Bible, il pourra découvrir le Christ. Mais s'il découvre le Christ, il viendra vous poser des questions. C'est très rare ceux qui sont convertis au Christ et qui restent avec l'écriture pour continuer. Ce qui montre bien, vous voyez, que la conversion, elle peut se faire en dehors de nous. Ça, c'est très vrai. Mais c'est très impressionnant de voir que chacun de ceux qui se croient, immédiatement, ils vont auprès de ceux qui croient. Ce qui montre bien que si le Seigneur a la miséricorde de heureusement qu'il ne passe pas par nous, pour, qu'il n'a pas besoin de nous, mais il veut avoir besoin de nous, au moins pour la croissance. Pour pouvoir nourrir, pour pouvoir aider à grandir dans la foi. La conversion, il n'a pas besoin. Et dans certains cas, il s'en passe. Mais la croissance, jamais. Vous découvrirez jamais, dans le fond de l'Afrique, quelqu'un auquel on a envoyé la Bible et qui a reconstitué toute la théologie catholique tout seul parce qu'il avait l'écriture. C'est vrai, le Seigneur pourrait faire ça, il n'a pas besoin de nous. Hein. Il pourrait tout à fait aller... que les anges viennent expliquer, il n'a pas besoin de nous pour aller, il pourrait tout à fait se passer de nous pour aller prêcher l'évangile. Surtout dans les endroits qu'on ignorait. C'est vrai, on a laissé des milliers de gens, on ne savait même pas qu'ils existaient, on ne leur a pas annoncé l'évangile. Le Seigneur aurait pu faire quelque chose, au point de vue de l'évangélisation. Il a laissé des siècles entiers avec des gens auxquels l'évangile ne parvenait pas. C'est énorme. Et il continue de le faire, c'est-à-dire que si j'arrive pas physiquement jusqu'à cet endroit-là, l'évangile ne sera pas annoncé. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, hein, mais ça veut dire que l'évangile ne sera pas annoncé. Donc c'est impressionnant de voir jusqu'à quel point il veut dépendre de nous. Alors ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est dans cette lumière-là, vous voyez, encore une fois, là on vient de voir comment l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, coopère au don de la grâce. Ou plus exactement, apprend à céder au don de la grâce. À répondre, mais c'est une réponse qui est... Vous voyez, notre réponse, elle est toujours causée par le don. C'est pas ce qui nous est donné quelque chose qu'on est capable d'y répondre. C'est pas 50%, 50%, si vous voulez. J'ai pas ma part à faire et Dieu fait la sienne. J'ai à le laisser m'obliger à faire ce qu'il me demande. Ça, je vous dis, c'est comme de céder à l'attraction de Dieu. Même si ça me réclame des efforts subjectifs dans lesquels j'ai l'impression d'être seul. On peut avoir l'impression, à l'oraison, de ramer tout seul. Le tout, c'est de savoir dans la foi qu'on rame pas du tout tout seul. Qu'on rame que parce qu'il nous attire. Même si on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas. Ce qu'on va essayer de voir ensuite, c'est comment les différentes formes d'intelligence. Il y a l'intelligence comme telle. Et on a vu que l'intelligence, elle avait de multiples possibilités. Il y a une intelligence affective, une intelligence artistique, une intelligence scientifique. On va essayer de voir comment est-ce que, du coup, l'intelligence, elle est mise au service de la foi. Vous voyez, là, on va regarder les diversités selon lesquelles l'intelligence va coopérer. La manière première, je vous dis, c'est au fond d'apprendre à vouloir me mettre dans la foi devant Dieu, devant le Christ, et à recevoir sa lumière. Le lieu de ça, ça s'appelle l'oraison. Et ensuite, j'ai à voir comment est-ce que c'est toutes les autres capacités de mon intelligence que le Seigneur demande aussi de mettre en œuvre. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des formes d'intelligence que je ne peux pas faire coopérer à la foi ? Autrement dit, est-ce que je peux, question aujourd'hui importante, passer directement de l'art à la foi, de la science à la foi, de l'intelligence affective à la foi ? Pour que j'apprenne à voir comment maintenant, vous voyez, comment je m'y prends pour coopérer. De la même manière que quand on vous engage dans une entreprise, on vous explique ce qu'on va vous demander. Là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous demande, comment il nous demande de coopérer. Est-ce que l'intelligence informatique, ça se voit par la foi. On a vu que toutes ces formes d'intelligence, elles sont légitimes humainement. Alors, on a vu que la foi, elle est reçue dans l'intelligence comme telle. C'est-à-dire dans l'intelligence qui est liée au réel. C'est ça le lieu de la foi. C'est pas premièrement reçu dans l'intelligence qui est capable de faire des théories. Ça change rien, mes théories, la foi. Vous n'inventez pas une nouvelle théorie scientifique parce que vous avez la foi. Ça ne change rien à vos idées. Il n'y a pas de mathématiques chrétiennes. Par contre, ça change quelque chose à votre intelligence affective. Ça ne change rien à mon intelligence philosophique. Une table n'est pas moins une table parce que j'ai la foi. La foi, ça ne me donne pas des idées nouvelles. J'atteins quelque chose de nouveau, mais j'en ai pas d'idée. Oui. Quand je disais qu'il n'y a pas d'évidence, j'ai pas de concept non plus. Ça veut dire que j'ai pas d'idée. Vous n'avez pas l'idée de Jésus. Ça vous laisse rien, si vous voulez. C'est ça qui n'est pas commode. J'ai rien à la sortie. Au moment où je crois, je l'atteins. Mais si j'arrête de croire, vous voyez, j'ai rien de plus. Il n'y a pas de concept chrétien. Ce serait pratique, parce que vous voyez, il suffirait de se souvenir des concepts chrétiens pour s'aider. C'est très étonnant de voir ça, c'est que dès que je quitte le Seigneur, j'ai plus sa lumière. Alors ça ne veut pas dire que je suis dans les ténèbres instantanément. Hein. Mais ça veut dire que je ne peux pas me servir de la lumière de Dieu. Quand vous avez compris quelque chose, vous vous en servez. Une fois que vous avez fait l'expérience des poireaux et de la cuisson des poireaux, ensuite, vous pouvez vous en servir une fois que vous avez compris. Vous avez compris, c'est-à-dire que vous avez vu comment ça marche. Donc ensuite, vous pouvez vous en servir. Vous n'avez plus besoin de refaire la première expérience. D'accord ? C'est dans votre mémoire, vous avez gardé quelque chose. Quand vous apprenez à connaître quelqu'un, vous en gardez la mémoire. Même si le visage, vous l'oubliez, si vraiment vous connaissez cette personne, vous en gardez la mémoire. Alors que dans la foi, ça ne me laisse rien. J'ai beau savoir que dans la foi, j'atteins le mystère de la Sainte Trinité, J'arrive pas à l'expliquer. Vous voyez, j'en ai pas le souvenir. C'est pour ça que la foi, elle réclame un exercice. Vous voyez, je dirais, elle n'existe qu'en acte, la foi. Elle ne peut pas se transformer en propriété. Alors que du côté de l'intelligence, si, c'est pas juste, hein, parce que quand je connais quelqu'un, je n'ai pas à me servir simplement de ce que je sais. Normalement, j'ai précisément à laisser tomber ce que je sais pour découvrir encore plus loin. Mais dans la foi, je ne peux pas faire ça. Par exemple, c'est pas parce que je récite le credo que je comprends ce que je dis. Vous voyez, la récitation du credo, c'est pas un memento de la foi. La seule manière de comprendre le credo, c'est de recevoir la lumière de Dieu. C'est incompréhensible le credo sans la lumière de Dieu. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est de voir que je ne peux pas utiliser la foi. Ce n'est pas une connaissance utilisable. C'est pour ça que je ne démontre pas la foi, que je ne peux pas la mettre en logique. Que je ne peux pas prouver, ça ne sert à rien de chercher à prouver à quelqu'un qui n'a pas la foi que j'ai raison. Humainement, si humainement j'ai à discuter. Et j'ai à lui montrer que ce que je dis, ce n'est pas stupide. Mais je ne peux pas lui prouver que j'ai raison. Et je ne peux pas travailler directement sur la connaissance de la foi. Parce que la foi me suspend à la lumière de Dieu. Vous allez me dire, mais alors comment est-ce qu'on fait pour faire de la théologie et de la catéchèse? Comment est-ce qu'on fait pour prêcher? Mais précisément, l'exercice de l'intelligence théologique, ça va être d'essayer d'exprimer le moins mal possible ce que j'atteins. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne pars pas de la lumière pour en tirer les conclusions. Je dis que ça ne s'exploite pas. Donc je ne peux pas en tirer les conclusions. Mais ce que j'atteins, j'essaye de trouver les choses les moins fausses possibles pour le dire. Alors c'est déjà ce qui est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, j'ai de la théologie révélée. C'est-à-dire que Dieu ce qu'il m'a donné, je suis certain qu'en le lisant avec intelligence, c'est la manière juste d'exprimer la lumière de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle la parole de Dieu. Mais ce que je lis, c'est pas la lumière. C'est la manière humaine la moins inadéquate possible. Et il y a des degrés. C'est évident que l'évangile de Saint Jean m'approche, si vous voulez, me parle plus de la lumière de Dieu que le livre des Nombres. Que le Lévitique. D'accord ? Et donc j'ai à apprendre à repérer tous les moyens que Dieu utilise et puis à compléter. Parce que ce qui est très bizarre, c'est qu'il faut compléter. C'est qu'il faut que j'apprenne ce qu'on fait quand on fait de la catéchèse. Vous n'allez pas répéter que l'écriture. Les enfants, si vous leur citez que l'écriture, il y a des chances que, vous voyez, quand ils vont vous poser des questions, si vous répondez que par l'écriture, il y a peu de chances qu'ils avancent. Mais il faut que vous sachiez que c'est l'écriture qui est ce qu'il y a de plus intelligent. Qu'on n'arrivera jamais à dire plus, à dire mieux sur le mystère de la Sainte Trinité que le prologue de Saint Jean. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de compléter, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai presque envie de dire de rajouter les barreaux qui manquent. Il faut aider à ce que le prologue de Saint Jean, ça devienne quelque chose, pas d'évident, mais quelque chose qui soit... qu'on y accède, vous voyez, qu'on arrive à le lire et qu'au fond la lumière de Dieu nous apparaisse immédiatement à travers le prologue. Et le travail de la théologie, c'est ça. Le travail de la théologie, c'est d'assouplir mon intelligence pour la préparer à croire en plénitude. Le travail de la théologie, c'est d'apprendre à parler et à me servir de mon intelligence pour m'approcher de la lumière de Dieu le moins mal possible. C'est pour ça que la théologie, je bafouille toujours dans la théologie. C'est pas un savoir, ou si vous voulez, c'est un savoir qui est en permanence dépassé et dépendant de l'acte de foi. C'est pour ça que c'est très fatigant. Enfin, de la théologie ou de la catéchèse. On voit bien ça, vous voyez, avec un enfant. Si vous avez que des petites histoires, parce que c'est facile à comprendre les petites histoires, vous faites la catéchèse rien qu'avec des petites histoires. Vous verrez que les enfants, au bout d'un certain temps, ne supportent plus. Parce que ce dont ils ont besoin, eux, c'est le mystère. Mais en même temps, si vous les emmenez à l'adoration et que vous les laissez simplement pendant toutes les heures de catéchèse devant, en silence devant le Saint-Sacrement, il y a peu de chances que ça dure aussi très longtemps. Parce qu'au bout de 20 minutes, ils vont commencer à faire les ouaves. Et si vous faites rien et vous dites rien, ça va se terminer mal. Alors comment vous faites? Mais présentement, vous avez besoin. C'est la même chose pour la théologie. La difficulté, c'est ça. C'est au fond que ma parole elle-même, vous voyez, et l'exercice de mon intelligence soit relatif à cette adhésion au mystère. C'est ça, de conduire l'autre à Dieu. C'est pas de remplacer le mystère par des petites histoires, qu'elles soient théologiques et intellectuelles ou qu'elles soient des petites histoires pour les enfants. Ça revient exactement au même. Ou si vous voulez, ce que j'ai à leur donner, c'est des icônes, c'est pas des idoles. Si je remplace le mystère par un discours, c'est une idole. Parce qu'à la place de Dieu, je leur donne mon discours. Donc ils disent, mais comme c'est intelligent ce qu'il dit. Vous savez, c'est toujours dangereux quand les gens sortent à la fin d'une messe et qu'ils vous disent, mais comme votre homélie, comme ce que vous avez dit, c'était beau. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux que les gens vous disent, mais comme le Christ est grand. Parce que le but, c'était pas qu'on dise bien. C'était pas la beauté de ce qu'on disait. Vous avez des gens qui bafouillent dans les homélies, mais le Seigneur, il est là. Et vous en avez d'autres qui ont une rhétorique absolument superbe, mais la seule chose qu'on voit, c'est que c'est Frossard qui dit ça dans le livre sur Saint Vincent de Paul, c'est qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui souffle dans sa propre voile pour essayer de se faire avancer. C'est ça la rhétorique. Alors il s'époumonne à souffler dans sa voile, mais ça ne le fait pas avancer. Ça gonfle la voile, mais il ne bouge pas. Mais c'est la différence entre l'icône et l'idole. L'idole, encore une fois, ça fait partie, on peut, des idoles, que de s'arrêter, de ne pas se servir de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église, de la théologie, pour aller vers le mystère, et de s'en servir comme un remplacement. Moi, je n'ai pas besoin de faire la théologie, j'ai le credo. Et je sais comment il faut répondre au catéchisme. Je sais la réponse. Donc je l'ai, j'ai la réponse, j'ai la vérité. On n'a pas la vérité, c'est elle qui nous possède. Évidemment, c'est plus difficile. Et on a la tentation de dire, si c'est ça, c'est trop difficile. Mais c'est important de voir que, oui, dans l'exercice, ça va impliquer, que ça soit la catéchèse, que ça soit la théologie, que ça soit la prédication, du côté de celui qui la donne, comme de celui du côté de celui qui la reçoit d'ailleurs, d'apprendre à s'en servir comme un moyen, comme une médiation pour m'aider à entrer dans le mystère. Alors, il vaut mieux s'intéresser, c'est évident qu'il vaut mieux s'intéresser à la théologie et au credo, même si on s'y arrête, que de ne pas s'y intéresser du tout. De la même manière que dans l'Évangile, les disciples et les apôtres sont meilleurs que les pharisiens, parce qu'ils s'intéressent positivement à Jésus. Mais on voit bien que la manière dont les disciples et les apôtres s'intéressent à Jésus jusqu'au mystère de la croix est une manière qui est humaine. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils en comprennent. Mais ils refusent catégoriquement le moment où il faut commencer à aller jusqu'au mystère. À chaque fois que Jésus commence à révéler sa passion, les apôtres disent, ils reculent. Et donc c'est important de voir que on a à apprendre, on a la grâce pour ça d'ailleurs, à parler et à réfléchir pour essayer d'exprimer le moins mal, vous voyez, et de s'approcher avec notre intelligence le moins mal possible du mystère. Ça, c'est l'attitude théologique ou théologienne. Et cette attitude-là, elle est présente dans la vie du chrétien, même s'il ne fait pas de la théologie au sens des bouquins de théologie ou des cours de théologie. Et vous voyez, cette attitude, elle est présente même quand il s'agit de faire de l'art chrétien. Chaque fois qu'il s'agit d'exprimer quelque chose de la foi, c'est cette attitude que je dois avoir, de coopération pauvre de l'intelligence. C'est là, vous voyez, que c'est, je ne sais pas comment vous dire, qu'on a besoin de l'Esprit Saint pour nous éduquer. Parce que c'est pas facile d'aimer, vous voyez, de coopérer en s'effaçant. Vous savez, vous avez les gens qui aiment en vous marchant sur les pieds. Je t'aime, vous voyez, puis après ça, on sait tellement qu'ils nous aiment qu'au fond, on préférait qu'ils nous aiment moins. Alors ça, c'est, vous voyez, où on coopère tellement que le fait qu'on coopère devient plus important que celui avec lequel on coopère. Ou le fait qu'on aime est plus important que celui qu'on aime. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'on aime. Qui on aime, c'est secondaire, le tout, c'est qu'on puisse aimer. Ça, c'est le danger, vous voyez, de la théologie qui finit par se substituer à Dieu. Qui fait qu'au fond, c'est passionnant de réfléchir sur la parole de Dieu. C'est passionnant de réfléchir sur l'écriture, c'est passionnant de... Mais c'est plus passionnant que Jésus lui-même. Et puis vous avez l'autre attitude inverse, de celui qui dit, mais au fond, comme moi je ne suis pas capable d'aimer, j'attends qu'on m'aime. Et c'est l'attitude qu'on a, vous voyez. Alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que on dit, bah voilà, au fond ça ne sert à rien de coopérer, parce que de toute façon je coopère mal, il vaut mieux que je reste comme un petit enfant de Dieu. Et c'est pas facile de coopérer comme un pauvre. De ne pas prétexter la coopération pour se mettre à dominer, mais de ne pas prétexter notre pauvreté pour ne pas coopérer. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. La coopération entre la foi et l'intelligence, Dieu nous rend adultes dans l'ordre de l'amour de lui. C'est très profond comme éducation. Vous voyez, c'est pas du tout simplement un exercice. Si vous dites, c'est une alliance. La participation, que ce soit par la catéchèse, que ce soit par la théologie, que ce soit par... Chaque fois qu'on a à rendre témoignage, je n'ai pas simplement à prier l'Esprit-Saint et à dire tout ce qui me passe par la tête. Et à raconter ma conversion, vous voyez, en manière qui soit impressionnante. Que le Seigneur permette ça charismatiquement de manière momentanée, sûrement. Mais après ça, il me demande, pour nourrir mon frère, que ce que je lui dise en laissant le Seigneur m'éclairer, mais en coopérant à ce qu'il me donne. Alors l'heure de cet après-midi, c'est bien que vous posiez des questions sur tout ce que vous n'avez pas compris. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à poser des questions qui sont apparemment bêtes, parce que souvent c'est celles que personne n'ose dire tout haut.